C'est pourquoi je vais inviter Madame Stéphanie Emeria Claire, ingénieure de recherche en sciences humaines et sociales, qui donc travaille au Laboria. Je vais vous passer mon micro après. Et qui travaille sous la direction scientifique de Ian Ferguson, ont coordonné une étude scientifique nationale visant à appréhender les enjeux relatifs à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine du travail social. L'IA est-elle une ressource au service des professionnels ? Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente. En effet, comme il a été déjà souligné, au regard de la grève, l'option d'une visioconférence avait été éventuellement posée et la visio, c'est pas la présence, l'impact n'est pas le même. Et pour un sujet aussi important avec tous les enjeux en fait qu'amène dans son sillage l'IA, je suis plutôt ravie d'être présente avec vous. Et moi, je vais tout particulièrement remercier Madame Morvan qui, sans son soutien infini, aurait fait que j'aurais été ici en retransmission plutôt qu'avec vous aujourd'hui. Donc un grand merci Madame Morvan. Alors, donc, en effet, je travaille pour le Laboria, qui est un laboratoire de recherche-action qui est abrité au sein de l'INRIA. Je reviendrai sur ce sujet ensuite. Et pour me présenter très brièvement, je suis Stéphanie Emeria Claire, docteur en sciences de gestion. J'ai quand même un parcours, je tiens à le préciser, hein, parce que les gestionnaires ont mauvaise presse, cours en amont, en fait, en psychologie du travail, ce qui fait que, même en gestion et dans mes recherches, je vais avoir une approche et une entrée sur mes différents sujets en fait qui m'interpellent et que j'ai envie d'investiguer toujours par le travail. Hein. Et donc de fait, moi je m'interroge notamment, par exemple, je m'interroge sur les impacts de l'IA, mais en prenant cette entrée par le travail tel qu'il est effectué par les professionnels. Et la raison pour laquelle j'ai intégré le Laboria, c'est parce qu'il mène des recherches actions et donc qui s'ancrent en fait dans le terrain, et donc je peux pleinement ici faire valoir entre guillemets mon approche. Alors on va se poser la question que beaucoup se posent, si l'IA peut être une ressource au service des professionnels. Il se trouve, ceci dit, que l'IA dans le secteur du travail social en France est non pas une grande absente, mais néanmoins c'est quelque chose qui a été assez peu déployé. De fait, je vais m'appuyer, pour que nous puissions ensemble réfléchir à cette question, je vais m'appuyer sur une revue internationale, parce que nous on dit dans notre jargon, les chercheurs, on fait une revue de littérature, vous savez, on va aller voir, on s'intéresse et on va analyser ce que d'autres chercheurs ont fait avant nous. Bien. Et donc en l'occurrence, ici, je m'intéresse à cette question d'abord, parce que les travaux sont relativement absents en France, à cette question de l'IA et de ses impacts à partir de cette revue qui a été faite donc à l'échelle internationale et qui va plutôt donc faire valoir des travaux d'une IA à l'étranger. Hein. Et de fait, ici, très vite, on est tombé avec ma collègue Anne-Sophie Maillot, parce que donc je travaille avec une ergonome, une docteure en ergonomie, Anne-Sophie Maillot, nous sommes un binôme de choc au sein du Laboria, si je puis dire. Ces études, pour nous, elles nous posent problème pour une raison simple, c'est qu'en fait, elles n'adoptent pas l'approche que nous adoptons, quoi. C'est-à-dire ici, avoir des travaux qui nous éclairent sur la façon dont l'IA, qu'importe le type d'IA, vient reconfigurer, heurter ou, en fait, rendre, augmenter, si je puis dire, les professionnels en action. Hein. Donc, je dirais que je reste encore sur ma faim et peut-être allez-vous, vous aussi, rester sur votre faim. Et dans 6 mois, en revanche, comme nous menons des études actuellement, dans 6 mois, eh bien, je serai peut-être plus force de proposition, encore que je m'y refuse, pour une raison simple, c'est que les professionnels qui sont sur le terrain, c'est vous. Et qui connaît mieux son travail que celui qui l'exécute, vous. Et que je ne peux ici apporter que certains éclairages, mais en effet, je ne vous apporterai jamais, et par ailleurs je m'y refuse, ne serait-ce que pour ne pas vous amputer d'un certain pouvoir d'agir, n'est-ce pas, mais à vous apporter des outils clés en main et à vous répondre ici par « oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Hein. Et de toute façon, on le verra, l'IA, au regard des spécificités des territoires ou autres, appelle, en fait, à être discutée localement. Hein. Donc il n'y a pas de réponse générique, mais il y a quand même quelques tendances qu'on va pouvoir ici dessiner, et notamment à partir des premiers écueils qui ont été ici mis en lumière à l'étranger. Donc le cas du Japon vient d'être mentionné, c'est pas le seul, mais voilà, moi je m'appuierai pour l'essentiel moins sur des faits, des drames qui ont pu être véhiculés dans les médias, et plus sur de la recherche scientifique, mais ça c'est mon biais à moi professionnel, à chacun les siens. Alors, très vite, parce que j'ai qu'une heure, et j'en ai déjà mangé une petite part quand même. Donc je vais démarrer mon propos en présentant très vite le labor IA, et je vais le suivre de quelques constats à l'échelle de l'IA qui ont pu être mis en lumière pour notamment justifier notre positionnement, hein, et celui d'être dans une approche ancrée dans le réel. Je vais prendre un temps non négligeable, en fait il faut que je sois patiente. Je vais prendre un temps non négligeable, même si je l'ai situé ici dans quelques mots introductifs, pour vous expliquer dans les grandes lignes, donc ça va être très réducteur, de toute façon je ne suis pas issue des milieux de la technique, hein. Je ne suis pas développeuse, je ne suis pas informaticienne, je suis une chercheuse en sciences humaines et sociales, hein, et donc à chacun ses compétences, mais en l'occurrence néanmoins, je vais tenter ici de vous donner quelques repères sur l'intelligence artificielle et de quoi on parle. Ensuite, eh bien, on va tenter de voir ce que la littérature dit sur les premiers bénéfices qui ont pu être observés. Hein, à quel niveau, donc au niveau des structures par exemple, en quoi l'IA peut-elle être une ressource potentiellement au niveau des structures, à l'échelle des professionnels, et c'est ça, hein, ici, hein, c'est vous hein, qui m'intéressez le plus, et donc je vais prendre un temps ici non négligeable, et enfin une IA au service des personnes accompagnées, même si je dois dire que, avec ma collègue, au regard des études que nous menons, c'est quelque chose qui est bien évidemment récurrent, on s'en doutait, mais c'était quelque chose qui, à l'origine, était que peu intégré. En fait, on n'intègre pas, nous, dans nos recherches, parce qu'on se situe du côté des professionnels, donc on a assez peu intégré les personnes accompagnées. C'est un reproche assez légitime qu'on pourrait ici nous adresser, mais néanmoins, notre souci à nous, ce sont les professionnels. Bon, je vais quand même émettre ici quelques constats qui ont pu être identifiés d'ores et déjà. Et puis, on va arriver, hein, ça a été soulevé ce matin, on va arriver au risque fait entrer en scène l'IA, et des risques qui ne sont pas négligeables, je dirais presque aussi au regard de votre profession, hein, et qu'il faut pouvoir considérer, notamment parce que vous êtes vous-même porteur de valeurs, vous avez une histoire, une formation, des expériences qui ont fait que des valeurs, par exemple humanistes, se sont forgées, des valeurs de justice sociale se sont forgées aussi au fil de votre parcours, et que ici, l'IA pourrait venir en fait heurter, mais un type spécifique d'IA pourrait venir heurter ces valeurs. Donc, spécialiste que j'étais par le passé, sur ces questions de santé au travail, voyez, à T2, hein, moi c'est quelque chose que je vais investiguer ensuite, c'est par-delà les impacts à l'échelle du travail, c'est comment l'IA potentiellement peut-elle venir impacter cette question de la santé mentale au travail, notamment à partir des conflits de valeurs par exemple. Et puis, si le temps nous avons encore, si j'ai pas été trop longue, hein, comme je le suis déjà, on abordera en fait ce que nous menons au sein du labor IA, mais je dirais que le principal ici, c'est nos deux premiers points. C'est parce que, pourquoi j'ai intégré quand même les études que nous menons au labor IA, c'est parce qu'en fait on a quelques premières observations. Hein, en France, on a là maintenant, par-delà cette littérature étrangère, on a quelques premières observations qui ne sont pas encore des résultats. Hein. Vous connaissez les chercheurs, il faut que nos données subissent l'épreuve de la preuve, hein, dans une espèce de quête de vérité. Et de fait, ce ne sont que des premières observations qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant. La donne peut changer, hein, après notre analyse. Alors, le labor IA, en fait, sa méta-mission, si je puis dire, hein, sa première mission, ici, c'est de comprendre et d'analyser les impacts, hein, de l'IA à différents niveaux. Au niveau du travail, comment l'IA vient ici rencontrer le travail et quels sont ses impacts à l'échelle des compétences, de l'emploi ou de la formation professionnelle. Nous, nous sommes missionnés par la Direction générale de la cohésion sociale et à ce stade, on travaille plutôt sur le travail, l'activité de travail, c'est-à-dire ce qui se fait réellement. Donc, en fait, le Laboria a principalement 5 objectifs. C'est de pouvoir ici éclairer le débat public sur les impacts de la diffusion de l'intelligence artificielle au sein des organisations, mais également de produire des recommandations dans la perspective de pouvoir favoriser le développement et la diffusion d'une IA qui se veut responsable. Peut-on dire qu'une IA est responsable? Ça serait lui à donner, en fait, quand même... ça serait lui accorder peut-être trop d'importance, mais néanmoins, comment on peut développer de manière responsable un usage de l'IA, voilà. Et pour des raisons de commodité, on va parler d'IA responsable, d'IA inclusive, mais est-ce qu'un système automatique peut-il être inclusif? C'est une question ici qui peut aussi être posée au service de l'humain et potentiellement créatrice de valeur dans les environnements de travail. Si vous allez sur le site du Laboria, vous verrez également qu'il y a la production ici d'outils pédagogiques, des publications thématiques, toutes se basent sur des études qui sont menées sur le terrain et qui se veulent opérationnelles. Le but, c'est, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été missionnés par la DGCS, c'est de pouvoir, à terme, émettre des recommandations à l'échelle des politiques publiques. C'est ici... permettre notamment au ministère du Travail, mais pas seulement, donc en l'occurrence c'est la DGCS, de pouvoir les accompagner dans leur prise de décision, éclairer potentiellement cette prise de décision. Alors, en guise d'introduction, je vais faire très vite, mais c'est vrai que l'IA, elle suscite parfois des espoirs. Là, je fais référence au discours et au récit transhumaniste, la quête de l'immortalité. On peut se poser des questions, dans une société séculière, est-ce que elle vient pas combler un vide, par exemple? Enfin, ces discours viennent pas combler un vide. Bref, on observe en fait qu'il va y avoir des récits en tout genre, des récits qui peuvent être tantôt démesurément optimiste, et donc là je fais référence ici au discours utopiste, et tantôt catastrophique, avec une IA qui va prendre le contrôle. Et je ne dis pas dans quelques décennies, une IA générale, une supra-intelligence, d'ailleurs je n'aurai pas la compétence pour le faire, pour pouvoir le dire, mais néanmoins, moi je m'intéresse au réel, aujourd'hui, en tentant de voir quels sont les impacts qui sont observés, et je tente de projeter les conséquences des impacts aujourd'hui. Okay ? Donc, si ces émotions plus ou moins intenses qui peuvent effectivement être générées dans des discours utopistes, des discours dystopiques, à la Terminator, si je puis dire, néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et comment, potentiellement, l'IA peut-elle augmenter ou heurter le professionnel dans son activité. Ceci étant, on ne peut pas faire fi de cette inquiétude grandissante. Par-delà ces récits, l'OCDE a montré là que, on a une frange non négligeable de professionnels qui sont ici inquiets parce qu'ils ils craignent en fait pour 60% des travailleurs de perdre leur emploi. C'est pas rien quand même. D'où aussi la nécessité peut-être de sortir de ces discours et de revenir s'ancrer dans le réel. 48% des Français pensent que leur emploi pourrait disparaître dans les 10 ans. Et là, on est pour le moment face à une crainte qui implique une IA multitâche. Okay ? Une IA forte. Pour le moment, on est face à des IA dites faibles, c'est-à-dire celles qui sont monotâches. Alors, on voit se décupler des IA qui peuvent faire ChatGPT, est une illustration, qui peuvent faire plusieurs tâches. Okay. Mais néanmoins, toute chose relative, on n'est pas encore face à des IA ici qui pourront prendre entièrement des métiers. Et la raison ici de ces discours, c'est parce que on méconnaît le travail, en fait, la complexité du travail. Alors, dans les faits, en effet, il y a eu des avancées technologiques majeures. On a vu apparaître dans les années 2000 Internet, il y a l'affaire du Big Data qui va permettre ici, qui sont une base de données pour nos systèmes d'intelligence artificielle, et notamment ceux d'une certaine approche, et qui vont permettre un entraînement sur une quantité immense de données. Donc, il y a des avancées, ici, dans, à l'échelle, je dirais, des infrastructures, d'une certaine façon, si je peux dire ça comme ça, le terme n'est pas tout à fait juste, mais il y a également des évolutions techniques, des avancées techniques, et notamment, un peu avant les années 2000, l'essor du machine learning, l'apprentissage automatique. Alors, on va démêler tout ça après, hein, mais ça, ça va venir expliquer les craintes en cours, et ça va offrir des possibilités nouvelles, et de fait, il est important de pouvoir étudier tout ça de manière lucide, si je puis dire. Et puis, on a l'arrivée de ChatGPT. Et ChatGPT, ici, comment dirais-je, va faire qu'à un moment donné, on se dit « Waouh, l'IA, ça, c'est dans toutes les bouches !» Parce que, effectivement, c'est tout public, ChatGPT. Je dis ChatGPT, c'est Mistral, Copilot, Perplexity, etc. Quoique Copilot, pas toujours accessible à tous. Mais, en fait, on a affaire à des IA qui sont à disposition et qui montrent effectivement des capacités qui peuvent être bluffantes. Moi, la toute première fois que j'étais sur ChatGPT, je me suis dit waouh, mon Dieu, je vais perdre mon travail. La première chose que j'ai pensé, bien sûr, je me suis dit, mais moi qui rédige des articles scientifiques, etc., à quoi bon? Ils veulent faire à ma place. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué en réalité. Donc, bien sûr, j'ai eu moi-même cette réaction, mais bref. Mais de fait, cet intérêt pour l'IA s'est trouvé élargi. Hein, et il est dans beaucoup de bouches. Alors, quelque chose que nous avons observé, c'est que on nous disait, oh, vous savez, travailleurs sociaux et numériques, il y a une résistance qui est presque historique. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, hein, dans nos études, hein, que, comme les autres professionnels, en réalité, il y avait ici un usage spontané. Et cet usage spontané, en fait, on a des tas de salariés qui utilisent sans en informer la hiérarchie, hein, l'Ipsos, ici, qui a montré que 55% des Français, alors je dirais 23% l'ont utilisé au moins une fois sans avertir la hiérarchie, et 32% le font régulièrement. Et en fait, on s'est rendu compte que les professionnels du travail social aussi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'ai pas d'avis. C'est pas la question. Et d'ailleurs, moi, le jugement, c'est pour d'autres, en fait. Je vais laisser ça à d'autres. Moi, pour ma part, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Et comment ça peut amener des problématiques, hein. Alors, ce regain d'intérêt et le fait que ça soit partagé repositionne, remet en scène, ici, l'éternel débat d'une machine qui va venir nous remplacer. C'est un débat qui n'est absolument pas nouveau. Les tisserands, hein, au cours des mouvements des ludites, déjà, ici, avaient cette crainte. Et donc, avec l'arrivée des machines à tisser, on a vu le mouvement des ludites. Alors, ils ont été, bien sûr, impactés. La question, c'est dans quelle mesure les emplois, dans toute leur globalité, vont-ils être impactés, hein? Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ils ont été durement impactés, ce qui explique ici ce mouvement des ludites, en fait, où ils ont été cassés les machines, etc., hein, à tisser. Il y a également Rifkin, qui nous disait, avec ici l'automation, hein, c'est-à-dire l'arrivée des ordinateurs, par exemple, etc., qui prédisait ici la fin du travail et qui proposait qu'il y ait une troisième voie, un troisième secteur. Le secteur, notamment, par exemple, aujourd'hui, ça entrerait peut-être en écho à travers l'économie sociale et solidaire, associative, communautaire, etc., qui proposait une troisième voie et aussi une réduction assez radicale à l'époque du temps de travail pour permettre, en fait, de redispatcher ici le travail, étant donné que, du fait de l'arrivée des ordinateurs, eh bien, il y aurait ici la fin du travail qui était projetable et projetée. On a avec ici, je voudrais dire quand même Accenture, je ne sais pas si vous connaissez, cabinet de conseil, il y a deux jours vient quand même d'annoncer, hein, que tous ces salariés qui, après formation, n'arrivent pas à travailler avec l'IA, dehors. Donc, il y a ici des menaces sur l'emploi. Mais des menaces telles qu'elles avaient été, par exemple, esquissées, et comme on peut l'entendre parfois aussi dans certaines unes médiatiques, mais en tout cas, moi je vais m'appuyer sur la science, des menaces ici autour de l'emploi qui pourraient être touchées et disparaître à hauteur de 47%, comme le mentionnait Frey Osborne en 2013, et ça c'était avant l'arrivée de ChatGPT. En réalité, c'est, là encore, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est méconnaître la complexité du travail. Penser qu'une machine, ici, pourrait nous remplacer, c'est naïf, presque. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire ici comme premier constat, c'est qu'en réalité, toutes ces études, elles sont portées sur les effets quantitatifs, sur le nombre d'emplois, etc. Et ces études ont plutôt porté, donc, se sont intéressées aux effets quantitatifs des impacts de l'IA. Mais nous, on va s'intéresser aux effets qualitatifs, plutôt, au labor IA. On va s'intéresser aux effets qualitatifs parce qu'en réalité, une donnée ici qui est issue hein, d'OpenAI et qui semble plus en cohérence avec ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'en réalité, 80% des travailleurs, américains en l'occurrence, pourraient voir 10% de leurs tâches automatisées. Et de fait, ici, ça appelle justement cette question non plus de 47% des emplois qui vont disparaître. On a moins d'emplois qui potentiellement vont disparaître, mais en réalité, on a une proportion plus large d'emplois qui vont être partiellement reconfigurés. Puisqu'il y aurait potentiellement une perte de tâches. Okay ? Si jamais, ici, les tâches étaient remplacées par l'IA, automatisées. Donc en fait, cette automatisation partielle de tâches qui vont être peut-être désormais prises en charge par l'IA, elles vont venir désorganiser les tâches inhérentes à notre activité actuelle. Et donc il va falloir pouvoir ici réfléchir à comment les organiser et comment les organiser, je dirais, de manière, comment pourrais-je dire, sans porter de jugement de valeur, aidez-moi, intelligente, sérieuse, respectueuse des valeurs du métier, par exemple. Comment donc penser cette réorganisation de façon à ce que notre métier fasse encore sens? Autrement dit, mettons les deux pieds dans le plat, quelles tâches acceptons-nous potentiellement de déléguer à l'IA et quelles tâches font sens dans notre travail et refusons-nous de déléguer à l'IA. Quand par moment j'ai pu entendre « Ah ouais, les tâches administratives, c'est du rébarbatif, etc. » Attention, si les tâches administratives permettent eh bien, d'avoir un premier contact avec la personne qu'on accompagne, or, me semble-t-il, en tout cas de ce qu'on entend, c'est que cette première rencontre est importante pour pouvoir tisser un lien, établir une relation de confiance. Là, potentiellement, on a affaire à une tâche administrative qui viendrait altérer la suite. C'est un peu, je vais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure autour de la prévention et des associations, c'est en fait, on va se faire l'économie de quelque chose, mais en réalité, derrière, on va galérer, quoi. Et on va avoir affaire à une relation qui, peut-être, aura été moins bien installée au départ, et donc, ça va venir avoir un impact sur la prise en charge. Alors, vous m'excuserez, je bouge tout le temps. Vous me suivez quand même ? C'est bon, pardon, mais... C'est comme au tennis, on me l'a déjà dit. Non mais, n'empêche qu'une organisation, un jour, me dit « Non, non, mais madame, on va vous mettre une chaise là, parce qu'en fait, avec vous, j'ai fait beaucoup de consulting, mais j'étais aussi enseignante-chercheur à l'université quand même. Bon bref, mais j'ai beaucoup accompagné des organisations du secteur public, pour l'essentiel, fonction publique d'État, dans c'est sur ces questions en fait de santé au travail, et donc j'ai pas mal fait d'interventions de ce genre. Et en fait, il y en a une qui me disait « Non mais madame, c'est plus possible, en fait, arrêtez-vous !» Bon, vous m'en excuserez, on a tous nos habitudes, et celle-ci m'aide en fait à avoir un discours qui puisse être fluide, etc. Vous savez, la marche qui aide à trouver les idées. Donc je vous prie de m'excuser si jamais, voilà, vous aviez... Alors, je reprends, le temps file. Oui. Parce que moi, je resterai la matinée avec vous sinon, donc non, on va laisser la place à tous. Donc, ici, la question, et j'insiste, c'est si jamais il y avait substitution sur une tâche de nous par l'IA, que l'IA, cette fois, en fait, nous remplaçait, lesquelles ? Et lesquelles touchent sont nécessaires, sont un préalable à ce que l'on puisse avoir une prise en charge de qualité avec les personnes que nous accompagnons. Okay. Donc, plus que de se dire « Ah non, non, ou les tâches administratives sont rébarbatives », la question est « Lesquelles ? Le sont-elles ?» Et je dirais presque « Lesquelles sont-elles inutiles ?» Je vais me taire, je n'irai pas plus loin. Je pense que nous avons ici des idées qui pourraient être partagées. J'ai beaucoup étudié les outils de gestion, et le reporting notamment, par exemple. Et de fait, voilà, j'ai là encore un biais. Il y a une autre question qui peut se poser, et qui doit être posée, si jamais vous faisiez partie d'un groupe de travail. Il y a une autre question, c'est quelle relation je vais entretenir ici, quel type d'interaction je vais avoir avec ce système. Est-ce que ce système est pensé dans une logique de performance, c'est-à-dire qu'il vient potentiellement absorber une défaillance, les capacités de calcul d'une IA et puis des nôtres. Plus que ça, la question c'est donc sur quelle logique on va être. Là, on va être dans une logique, celle-là, dans la littérature, on l'appelle la relation de partenariat. Hein, il est avec moi, partenaire. J'interagis peu, finalement, avec lui. Lui, il fait les tâches que moi, finalement, a priori, je suis moins performant. Voilà. Et puis, il va y avoir un autre type d'approche. Et c'est celui-ci qui va aller plutôt, je dirais, épouser la logique d'une IA capacitante, hein, celle qui est au service d'eux. Dans cette relation de collaboration, l'idée, c'est qu'une IA peut venir nous soutenir dans la réflexion, par exemple, dans le diagnostic. Nous sommes toujours maîtres dans le bateau, mais néanmoins, elle vient ici nous éclairer, potentiellement, voire même, on peut interagir avec ce système d'IA, et de fait, nous avons toujours un rôle actif. Parce que j'aimerais quand même ici revenir sur un point tout à l'heure qui a été soulevé par Madame Tailleux, je crois, sur la question de la confiance. Il se trouve que il y a des systèmes, c'est pas encore, ça va être très, très vite, il y a des systèmes qui sont plutôt fiables. Donc la question de la confiance se pose peu, parce que les résultats qui nous sortent sont fiables. Et puis, il y a des systèmes où, des systèmes probabilistes, donc ChatGPT par exemple, où là, il faut pouvoir maintenir une attention et un œil critique. Or, dans les faits, ce que nous observons, c'est qu'après 3-4, l'humain va tester la machine. En fait. Et une première fois, il va lui demander quelque chose. Ah, le résultat est plutôt pas mal, je suis assez d'accord avec. Hop, suivant. Il teste une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Sauf qu'en fait, c'est peut-être la cinquième où l'IA va faire une erreur. Mais vous, moi, en fait, nous avons tendance à d'abord mettre à l'épreuve un peu la machine, puis à partir du moment où on est rassuré, c'est bon. Or, ChatGPT et autres types d'IA dans l'approche connexionniste, on y verra plus clair dans 2 minutes, ce sont des approches probabilistes. Donc, une fois c'est bon, deux fois c'est bon, trois fois c'est bon, puis peut-être que ça sera que la 18e fois. Mais vous avez confiance dans le système et vous êtes moins attentif. Or, de fait, il va ici être traversé ce résultat d'une erreur. Ok. Alors, autour de... Je vais faire très vite sur la définition, parce que là, ça c'est mon côté universitaire, enfin un malin. Mais ce que j'aimerais ici qu'on puisse voir, c'est qu'il existe toute une multitude de définition. La question qu'on pourrait se poser, c'est doit-on intégrer dans cette définition, par exemple, le terme intelligence ? Voilà. Moi, j'aurais plutôt tendance, mais ça c'est vraiment une position très personnelle, c'est pas celle qui est partagée au sein du Laboria, à éviter, en fait, d'insérer le terme intelligent dedans. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence fait encore débat. Le terme en tant que tel fait débat. Donc, peut-on associer ici intelligence artificielle, à intelligence, alors même que ce terme-là fait débat? Bien. Peut-être serait-il bon d'abord de s'entendre, voilà, mais je ne suis rien ni personne pour pouvoir... je vous donne juste ici un avis personnel. Par contre, ce qui nous intéresse dans la définition de la Commission européenne, c'est l'idée, ici, 2 points. Alors, hop, j'essaie... Bon, bref, des systèmes. Hop, j'essaie... C'est pas grave. Donc... qui décrit l'IA comme des systèmes qui affichent un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures, deuxième chose qui nous intéresse, pour atteindre des objectifs spécifiques. Voilà les deux choses qui sont importantes, de mon point de vue, dans la définition de la Commission européenne. C'est des systèmes. En fait, il n'y a pas une IA. Il faut arrêter de parler au singulier. Il existe des IA. D'une part, donc conservons ça en tête, des IA qui n'amènent pas du tout les mêmes enjeux. Et puis, des objectifs spécifiques, eh bien, c'est là où potentiellement nous avons un rôle à jouer. Lesquels ? J'ai récupéré celle de Bertolucci également parce que je poursuivrai, je dirais, de la définition de la Commission européenne en y intégrant qui doit des objectifs spécifiques qui devraient être pertinents d'un point de vue citoyen, sociétal et ou environnemental. Je pense que c'est intéressant, voire même important, et notamment dans vos métiers, ici que ça puisse, et je l'entends hein, dans la bouche des personnes qu'on a pu rencontrer, dans leur discours, que c'est quelque chose qui est important. Est-ce que c'est au service aussi des personnes accompagnées ? Okay. D'où le fait que je l'ai ici complété. Alors, l'IA, c'est pas du tout nouveau, en fait. On en parle, c'est ce que je vous disais tout au départ, on en parle depuis novembre 2022, beaucoup, avec l'arrivée, et l'arrivée fracassante, je dirais, de ChatGPT, mais néanmoins, il y a tout un background, en fait, qui, en plus, va expliquer la possibilité, en fait, qu'une IA comme ChatGPT puisse sortir. En réalité, on va avoir des fondements qui vont être posés dans les années 50, je vais faire très vite. On va avoir ici des chercheurs et des auteurs majeurs, type Turing ou McCarthy, qui va notamment inventer et prononcer pour la première fois l'expression « intelligence artificielle » au moment de la conférence de Dartmouth, et qui va, cette conférence, va permettre de poser deux approches particulières. La première, ici, ce que j'ai noté comme les débuts de l'IA symbolique, hein, donc on est au début des années 50, un courant qui va avoir, je dirais, bonne presse jusque un peu avant le début des années 90, okay, et c'est des IA qui étaient déjà implantées au sein des organisations. Les systèmes experts sont les plus connus, mais en réalité, on travaillait déjà avec des IA. Hein. Sauf que la particularité de ces systèmes, ici, donc je me situe en haut, IA symbolique, c'est que l'homme, le développeur, le concepteur, etc., va programmer toute une série d'instructions. Alors, série d'instructions égale algorithme, hein, quand vous entendez parler d'un algorithme, c'est toute une série d'instructions qui sont à l'intérieur de la bécane, si je puis dire, va programmer ici toute une série d'instructions sur la base de règles qui sont explicites. C'est-à-dire que ici, on va être sur une IA qui va tenter d'imiter notre raisonnement. Et c'est pour ça qu'on va ici plutôt obtenir des résultats qui sont fiables. Ils sont prévisibles, puisque nous avons en amont programmé le système d'IA avec des règles que nous avons nous-mêmes définies. Okay. Pour vous donner ici une illustration, ça va être, par exemple, de son fonctionnement, ça va être si la personne, par exemple, est sans domicile fixe, alors elle pourrait peut-être avoir cette aide-là. Et ça, ça va être programmé à l'intérieur de l'IA. En revanche, on n'a pas... Donc, on peut tracer facilement, et ça existe, système expert, je vous dis, déjà années 80. Donc, on travaillait déjà avec l'IA. Sans véritablement le savoir, en pensant simplement qu'on était peut-être face à des logiciels classiques. Okay ? Mais, en fait, ce qui, ici, amène à des questions, ça va être l'essor et la reprise de ce deuxième courant. Il y a deux grandes approches en IA. L'IA dite symbolique, celle qu'on maîtrise et qui nous produit des résultats plutôt fiables et prévisibles, okay, qui imite les raisonnements humains. Et puis, il y a l'IA, l'approche dite connexionniste. Et celle-ci, c'est celle qui, aujourd'hui, nous questionne le plus. Et c'est celle qui se développe de manière étendue. Oui. L'IA connexionniste, très vite, là, on n'a plus du tout affaire à une IA que l'on peut programmer au départ. On va simplement programmer un algorithme d'apprentissage. Et elle va apprendre par elle-même. On va lui donner tout un ensemble de données. Et par expérience, c'est elle qui va, ici, générer des inférences. Elle va paramétrer ce que disait, si vous écoutez parfois Luc Julia ou autre, milliards de paramètres, etc. Donc on est face ici à un système qui va être un peu plus opaque et qui va de lui-même, on est sûr, une IA qui cherche à imiter l'apprentissage et non plus le raisonnement, mais à partir du moment où elle a été programmée comme telle, de fait, elle va apprendre seule. Elle va générer elle-même des modèles. Et c'est là où les choses se compliquent. Qu'est-ce que je pourrais ici ? Voilà, on est sur, ici, vous savez, les fameux réseaux de neurones artificiels, dans cette approche probabiliste. Hein. Donc, ici, je vous ai mis un peu son fonctionnement. Alors, je l'ai mis de manière hyper réductrice, hein, parce que, en réalité, si vous regardez certains systèmes à l'intérieur, en fait, alors, c'est dommage parce que je ne vois pas, mais vous voyez, les deux couches cachées, en réalité, elles se superposent, ce sont les réseaux de neurones, et il y en a énormément. Hein. Et donc, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on a donné, ici, un dataset, un ensemble de données, on a donné un dataset à l'IA, et par elle-même, en fait, elle va apprendre et commencer à établir, bah, par exemple, une classification, elle va apparier certains et d'autres, elle va voir qui, il va y avoir ici des choses communes, par exemple. Et donc, c'est elle qui élabore son modèle. On pourrait avoir ici les systèmes d'aide à la décision, on en avait avec les systèmes experts. Hein. Mais là, on va pouvoir ici avoir des systèmes d'aide à la décision plutôt prédictifs, pour tenter de prédire, par exemple, un risque de vulnérabilité, un risque de maltraitance, par exemple. Okay. Et puis, on va avoir la fameuse IA générative. En fait, l'IA générative fait partie de ce courant connexionniste. Mais ce courant connexionniste, en fait, il va avoir des enjeux particuliers, et notamment la question, ici, faible, à l'échelle de son explicabilité, avec ce que l'on appelle communément la boîte noire. Même les concepteurs ont eux-mêmes du mal à comprendre comment s'y est pris le logarithme, comment s'est-il pris pour pouvoir donner ce résultat. Okay. Alors, je fais vite, je vais faire vite, je passe, et je vais aller sur les premières possibilités, les bénéfices potentiellement, ici, qui ont déjà été mis en lumière à travers cette revue, ici, internationale. Alors, en sachant que ces études s'appuient sur principalement des enquêtes, des recherches qui ont été menées dans des pays anglo-saxons, et vous verrez qu'ils jouent avec un jargon avec lequel nous, parfois, nous avons plus de mal. Hein. Mais je le dirai après, par exemple, la réduction des coûts. Quand on parle ici dans le secteur... Oui, voilà. Et de fait, nous, on est un petit peu plus frileux avec ce type de discours parfois, mais bon, voilà. Là-bas, c'est... Alors, quelles sont les premières possibilités ici de l'IA, et notamment de l'IA de type connexionniste, celle qui imite l'apprentissage et qui peut accueillir une très grande quantité de données? Eh bien, on se rend compte que, déjà, c'est plutôt plus des systèmes d'aide à la décision qui sont déployés dans le secteur du travail social et qui sont plutôt plus déployés au niveau, ici, de la protection de l'enfance, par exemple, ou de la justice pénale. Hein, la prévision de récidive, par exemple. Hein. Alors, quelles sont ces premières possibilités qui ont déjà été identifiées? Eh bien, on va se rendre compte que l'échange d'informations et de données va être... Excusez-moi si ma langue fourche, optimisée. Hein. On a effectivement ici des données qui peuvent se retrouver plus facilement partagées entre les différentes parties prenantes qui œuvrent dans la prise en charge, ici, des personnes accompagnées. Hein. Et donc, on va avoir des modalités de communication et d'échange d'informations qui sont plus facilement établies et potentiellement de meilleure qualité. Tout le monde dispose de la même information, de la même multitude d'informations, okay, et de fait, ça peut améliorer les discussions entre les différents acteurs impliqués en fait dans la prise en charge. Et de fait, ça peut faciliter la coordination des différentes interventions. Mais pourquoi ? Parce que en fait, elle a cette capacité d'avoir une quantité très grande de données, okay. Et de fait, in fine, en bout de ligne, c'est un processus de prise en charge ici qui peut être amélioré. Alors, à l'échelle de l'allocation des ressources, hein, vous en parliez ce matin, hein, la question du budget. Eh bien, à partir du moment où, en fait, une action potentiellement, comment dirais-je, une situation est plus finement analysée ou ciblée, et ce, à grande échelle, eh bien, à l'échelle des institutions ici, on va pouvoir voir que cette allocation des ressources peut être, là encore, optimisée. Hein. Et notamment à travers ici l'idée que cet échange d'informations et le fait de pouvoir disposer de l'ensemble d'elles va éviter la collecte de ces informations, le temps passé à la collecte de ces informations, et qui, de fait, aussi à l'échelle du travailleur, même si je l'ai situé au niveau des organisations, des institutions, eh bien, va avoir pour effet de réduire cette charge de travail, celle d'aller à la recherche de. J'ai ici des travailleurs sociaux qui m'expliquaient, alors le temps que je trouve ici l'organisme qui va, quand on est en fait par exemple en CCAS avec un public tout venant, eh bien on a, et ça concerne pas seulement les juniors, hein, les travailleurs sociaux juniors, on va avoir des professionnels qui parfois vont se retrouver en difficulté et vont passer un temps. Ils vont d'ailleurs parfois utiliser ChatGPT en lui demandant, sur Nîmes, quels sont l'ensemble des organismes qui gèrent les logements sociaux? Est-ce que tu peux m'en faire une liste complète? Et hop, ensuite, ces informations-là peuvent être transmises, par exemple, à la personne accompagnée, je dirais en direct. Hein. Alors, la question, c'est, faut croiser les doigts, en revanche, hein, si on ne vérifie pas derrière qu'il n'y ait pas d'erreur, quoi. Parce que l'autre en face, il repart avec des erreurs, quoi. Au niveau de la profession, alors là, ça touche de plein fouet, hein, le sujet d'aujourd'hui, l'IA générative. Et l'IA générative, ici, eh bien, notamment, c'est parce que, ici, j'ai reparlé, c'est une citation. Donc, je laisse les propos comme tels. Donc, est encore cité ChatGPT. Mais sachez quand même que nous avons aussi notre ChatGPT français, Mistral, hein, avec le chat. Voilà. Et... je veux dire, si on voudrait éviter d'alimenter, parce que ce que vous mettez sur ChatGPT, si votre institution n'a pas pris un abonnement payant, etc., et n'a pas décoché fait que ces données que vous mettez quand vous faites votre prompt ne soient pas utilisées pour les entraînements à venir de la bécane, eh bien, ChatGPT les utilise. Pour s'entraîner. Donc vous donnez, vous alimentez en fait ici, des données. Hein, vous alimentez la machine. Bref, donc, ceci dit, à partir du moment où on a pris toutes nos précautions, etc., qu'on n'a pas fait de violation de droits d'auteur, si demain vous prenez mon PowerPoint et vous le mettez sur ChatGPT, vous violez très clairement mes droits d'auteur en fait. Voilà. Vous n'avez pas le droit de le faire en fait. Je pourrais me retourner contre vous. Mais c'est pas. Mais c'est juste, c'est une juriste hein, ici qui nous en avait parlé. On a eu l'occasion de rencontrer une juriste spécialiste et qui nous disait non, moi je vous donne pas mon PowerPoint parce que si vous le mettez en fait sur ChatGPT, je fais quelque chose contre vous. D'accord, madame. Nous serons très. Bref. Mais à juste titre, en fait, en même temps, ce que je veux dire, c'est que par ignorance, on va faire des choses sans même se rendre compte, en fait. Hein. Je détourne le truc par une forme d'humour, encore que, est-ce que c'est drôle? Mais c'est dans les faits, les choses se passent comme ça, quoi. Alors, ceci étant, ChatGPT peut nous aider dans la création de résumés. Hein, et on le voit, ça. Hein, des documents sont insérés, on lui demande de nous faire un résumé avec les points clés. Personnaliser la communication. Ça aussi, on l'a vu. Alors, je vais ici le dire parce que j'aurai pas le temps d'aller sur les études, en fait, et les premières observations avec le Laboria. Mais en fait, on a des personnes qui, par exemple, sont dans la protection de l'enfance et qui nous ont fait part que quand ils vont faire, dans le cadre, par exemple, de signalement, mais qu'ils vont faire un document qui est adressé au juge, eh bien, ils vont user de ChatGPT pour faire ressortir tout les termes, etc., qui portent une dimension émotionnelle. L'idée étant, pardon de le dire ainsi, mais de dégager tous les termes à consonance émotionnelle pour que le juge puisse avoir face à lui que des éléments factuels et que ça ne desserve pas, de fait, la situation ici du jeune. Également, la rédaction de rapports, et la question qui se pose ici, c'est dans quelle mesure on délègue cette rédaction. Est-ce que d'abord nous avons nous-mêmes déjà analysé, fait un premier jet et là, vous restez très actif vis-à-vis de ChatGPT. En revanche, si vous lui mettez différents documents et que, après, vous lui demandez de rédiger un rapport d'analyse, eh bien, vous êtes plus dans une logique passive. OK ? Et, voilà, je mentionne juste ici des... Alors, ça peut aussi aider hein, à la prise de décision. Et ça, c'est, je dirais, le point fort et en même temps tout le risque hein, d'un ChatGPT, de l'IA connexionniste et des différents systèmes d'aide à la décision. En effet, on peut ici observer qu'il y a des besoins non satisfaits qui sont plus facilement identifiés. Par ailleurs, il y a des meilleures justifications à l'échelle des décisions qui sont prises. Même si ça peut être questionné encore. Mais là, c'est mon côté gestionnaire. Il y a une réduction potentiellement des erreurs. Et paradoxalement, ça amène aussi sur l'eau d'erreur. Vous comprenez bien ici, mesdames et messieurs, qu'en fait, on marche sur une ligne de crête. Et c'est la raison pour laquelle ce qui peut être positif, si on n'y prête pas garde, peut avoir son pendant négatif. Et donc, vigilance, effectivement, attention toujours active, esprit critique, etc. OK. Au niveau des personnes accompagnées, on observe que potentiellement les prises en charge et les services qui sont proposés sont potentiellement plus personnalisés, mais aussi ce qu'on observe et ce qui rejoint l'idée de départ, encore que la question pourrait être politique, mettons plutôt des associations, etc., pour permettre de faire de la prévention, ou ici, est-ce que nous nous appuyons sur une IA qui peut permettre des interventions précoces ? Alors, la réalité, on est ici face à des études qui néanmoins on peut approcher le réel. OK ? Parce que, et d'ailleurs, assez souvent en termes de limites, ces travaux mentionnent l'idée que, en fait, vous-même, vous êtes face à un savoir qui est nuancé, qui appelle à de la subjectivité, qui, effectivement, s'élabore dans la relation que vous avez aussi avec l'autre. De fait, difficile de déléguer la chose en fait à un système d'intelligence artificielle. Ok ? Donc vous avez affaire à un savoir nuancé, un savoir qui se révèle assez peu structuré. Et donc de fait, c'est l'un des éléments que vous faites souvent. Et surtout, vous émettez ici, vous prenez des décisions et vous émettez parfois des avis qui sont teintés d'incertitude. Souvent. Et des niveaux d'incertitude qui sont plutôt élevés. Or, ici, est-ce que, de fait, on peut faire entrer en scène des IA prédictives et s'appuyer comme telles seulement dessus ? Bien. Alors, dans tous les cas, la responsabilité d'une décision, elle reste humaine. Au niveau de la loi, en fait, si vous signez un rapport et qu'il y a une erreur dedans, qui a été faite et vous n'avez pas attention, vous n'avez pas corrigé, vous êtes ici responsable, à moins que ce soit l'organisation qui vous oblige à travailler avec cet outil et qui, face à la multitude des dossiers par exemple, vous conduit à perdre en vigilance et de fait c'est l'organisation qui serait ici responsable. Ok ? Je viens d'apprendre tout récemment. Merci à notre maître de conférence en droit du numérique. Voilà. Alors, très vite, ici, il y a des enjeux. À l'échelle, il me reste... Je vais être dans les temps, presque. En fait, je reprends un petit, et ça c'était ChatGPT, je lui dis, s'il te plaît, fais-moi un petit tableau, en fait, qui me donne les points forts et les points faibles des deux types d'IA. IA symbolique et IA connexionniste, etc. Je veux que tu me le mettes à l'échelle de la prédiction des risques, de l'explicabilité, etc. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai passé plus de temps sur mon prompt, j'aurais pu moi-même élaborer mon tableau, ça m'aurait pris autant de temps, voire peut-être moins. Ça a été ridicule. Mais ma foi, ce sont mes premières expériences avec ChatGPT et finalement, elles sont peu concluantes à certains endroits. Bref, il y a la boîte noire, la fameuse boîte noire, dans ces systèmes qui se développent aujourd'hui. Et cette boîte noire, elle implique que si on ne peut pas expliquer correctement, si on manque ici d'informations pour justifier les décisions qui sont prises, et notamment comprendre la décision qui a été prise par le système lui-même. Ça se complexifie. Ça rend difficile ici la tâche. Ça ne veut pas dire impossible. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il ne faille pas utiliser d'IA connexionniste, du tout. Je dis que, ici, il est important d'avoir en tête ce genre d'éléments pour pouvoir ensuite penser la mise en œuvre. Dans quelles conditions vont se mettre en œuvre ces systèmes d'IA? Est-ce qu'il faudrait, comme ça a été le cas à l'étranger, je fais part d'une étude Kawakami 2022, quand l'IA établissait un scoring et que le travailleur social n'était pas d'accord avec le score établi par l'IA, eh bien, il devait aller en référer à son superviseur, à son N+1. Là, comment, surtout quand on a affaire à des connaissances tacites, vous savez, ce que vous dites souvent de l'invisible, comment à un moment donné, il va nous falloir passer par tout un processus de conscientisation avant d'aller voir son N+1. De fait, on peut mettre en difficulté ici le travailleur social dans ce que souvent certains vont dire, ah c'est le flair, c'est, je crois que vous parlez pas mal des compétences expérientielles, je crois, quelque chose que je de nouveau pour moi, hein. Mais moi je parle de connaissances tacites. En fait, l'intuition, le flair, etc., c'est pas le résultat d'un flair à l'instant T. C'est en réalité le résultat d'une accumulation d'expériences qui fait qu'à un moment donné, vous ne conscientisez plus. Ça a été incorporé, si je puis dire, ici, des signaux d'alerte dont vous avez difficilement conscience. Mais de fait, comment aller justifier ça auprès de son N+1 si, et seulement si, évidemment, dans la procédure et dans sa mise en œuvre, et c'est pour ça que je parle des conditions de mise en œuvre ici, eh bien, la procédure dit il faut s'en référer au N+1. Ok ? Et là, de fait, on met à mal, potentiellement, ici, le travailleur. Et, en outre, la question, c'est comment on peut reprendre en main si on ne comprend pas comment le système est parvenu, ici, à établir ce résultat. Alors, deuxième point important que je voudrais aborder, les fameux biais algorithmiques. Ici, je pense que tous, si jamais vous avez utilisé une IA générative, a pu voir les limites assez rapidement, en fait, de ce type d'IA. Notamment parce que si sur les données d'entraînement, il existe, en fait, différents niveaux qui vont générer à la fin des biais aux effets discriminatoires. Ici, par exemple, si les données sont de mauvaise qualité, si dans ces données, il n'y a pas une certaine population dedans. Par exemple, le cas d'une entreprise qui va recruter, aujourd'hui, dans sa masse salariale, elle a plutôt des profils d'hommes, de manière majoritaire, pardon, et de fait, eh bien, l'IA va, elle s'entraîne là-dessus, elle va reproduire les biais. Okay ? Il y a aussi la question des populations qui sont sous-représentées. On l'a beaucoup vu, en fait, dans les études ici, c'était les populations autochtones. Il y a également cette reproduction de biais, je ne sais pas si vous avez déjà testé, fais-moi un cas de figure de maltraitance conjugale. Et là, on va avoir des noms à résonance maghrébine, hein, direct. ChatGPT, j'en ai fait l'expérience. J'y croyais pas. Enfin, j'y croyais pas. Quand on me l'a dit, je me suis dit, non, c'est pas possible, quand même. Pas quelque chose comme ça d'aussi flagrant. Bah si. Et puis, il y a aussi la question des biais culturels. Hein. En France, on a une certaine manière de penser, d'agir. Et puis, ChatGPT est américain. Et ces biais culturels, cette culture anglo-saxonne transparaît dedans. Hein. Donc, ici, ça peut renforcer les inégalités et, de fait, prodiguer, je dirais, des injustices sociales, à renforcer ces injustices sociales, de fait, venir se heurter, par exemple, par rapport à vos valeurs, d'où le fait de pouvoir ici les discuter. Et puis, je vais terminer. Oh, vous voyez, non, j'étais trop ambitieuse. Hein. Mais en fait, il y a des tas de choses que j'ai disséminées, en réalité, au fil de ma présentation. Il y en a des tas. Il me reste 2 minutes. Je voudrais terminer ici, sur le propos. Je serai dans le timing. Alors, je voudrais terminer sur ce propos-là. Ici, est-ce que l'IA... En fait, j'ai donc disséminé ici des tas de choses dans mon propos. Quand je vous parlais, par exemple, les professionnels qu'on a rencontrés, ben, ça fait partie des premières observations, par exemple, ici, qui étaient mentionnées. Donc, vous n'avez finalement pas perdu grand-chose. En guise de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que il ne s'agit pas ici d'avoir une réponse nette et tranchée. La question, c'est quels sont effectivement les risques qui peuvent être emportés dans l'usage, par exemple, notamment, d'une IA qui est dans l'approche connexionniste. Encore que aujourd'hui, vous verrez, vous entendrez parler d'IA avec RAG et tout, tatata. En fait, on va vers des approches hybrides. On cherche, en fait, à établir des règles explicites au départ, par exemple, ou alors on s'appuie sur des grands modèles de langage qui vont permettre une entrée en langage naturel et vous faire des sorties en langage naturel, mais on va tenter de contrôler la base de données, ce qu'on appelle le RAG, en fait. On va lui mettre une base de données bien spécifique et cette IA-là va s'entraîner sur la base des données seulement avec laquelle on l'a alimenté. Pour moi, la question ici, c'est être au clair sur quelle IA et pourquoi. Souvenez-vous des objectifs. Deux, c'est qui connaît mieux son travail qu'il exécute et comment on peut penser une IA qui ne vienne pas générer in fine ou des situations d'injustice ou des problématiques en lien avec la santé mentale au travail. Et donc, pour ça, il faut pouvoir ici discuter localement et décider de quelle IA pour quel objectif. Et qu'on puisse penser ici des moments où les travailleurs eux-mêmes, avec leur logique métier, vont pouvoir ici établir, par exemple, les critères. Le problème du Japon, c'est qu'en fait, fort probablement, peut-être que je me méprends, hein, mais des travailleurs sociaux, encore qu'ils n'existent pas tant, puisque ce sont plutôt des fonctionnaires d'État, mais on peut ou pas participer aux critères qui vont être ici définis et alimentés, par exemple l'algorithme. Okay. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisque des fois, les critères s'élaborent par eux-mêmes, les modèles avec les IA connexionnistes, etc. Mais néanmoins, à l'échelle des données, des types de données, ici, on peut intervenir en disant « Ah, ben, ces données physiques ne suffisent pas. Il nous faut d'autres types de données. Okay. » En gros, les premières possibilités, c'est on peut améliorer de l'analyse prédictive. Potentiellement, on peut automatiser certaines tâches plus que routinières, je dirais qu'ils ne touchent pas le cœur de métier. Et attention au discours ici des tâches administratives qu'on va déléguer parce qu'elles sont rébarbatives. Je dirais lesquelles ? Optimiser les processus de décision, oui, ça peut permettre aussi une prise en charge plus personnalisée, par exemple. Donc il y a un bénéfice ici à l'échelle des personnes accompagnées. Mais néanmoins, il y a ici des premières limites. Vous faites face à un contexte qui est singulier. Pour chacune des personnes que vous accompagnez, peut-on automatiser, standardiser ici sur des problématiques qui appellent à une prise en charge singulière ? La question se pose donc, de fait, sur à quel niveau potentiellement automatise-t-on ? Je me tais. J'en ai fini. Voilà, mais j'en ai fini. Si vous avez des questions.
Normalement, oui, il y a des questions. Alors, nous en avons déjà une. L'IA générative et protection des données, donc la RGPD, quelle vigilance à avoir ? Et tout de suite en dessous, quel enregistrement des recherches via l'IA ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va être sur des questions techniques. Je vais pouvoir répondre peut-être sur certaines et d'autres pas. Okay ? Donc, je suis chercheuse en sciences humaines et sociales et je ne suis pas issue de la tech. Mais néanmoins, sur cette question, je peux déjà éclairer. Effectivement, plus que la RGPD, nous avons même l'IA Act, en fait, qui est entrée en scène, qui a été élaborée en 2024 et qui va progressivement, ici, se dérouler jusqu'en 2026. Ou 2026, mais peut-être que je me méprends. En tout cas, sur cette question de la protection des données, oui, en effet, il y a cette législation qui peut partiellement préserver, mais néanmoins. La question de l'anonymat, vous travaillez en fait avec des données qui sont du registre de l'intime, et quand vous avez mis votre document, surtout si vous avez un usage spontané de ChatGPT ou autre, quand vous avez mis votre document, il entraîne la machine. Il est stocké. Il part jusqu'aux États-Unis et il entraîne la machine. Sachez que il ne suffit pas l'anonymat, l'anonymisation, si on parle de processus, ne consiste pas à juste écrire Monsieur X. Il faut enlever potentiellement le secteur d'activité. Il faut potentiellement, je ne sais pas, la profession. Il faut enlever l'adresse. Il faut enlever même le monsieur. Une personne. Donc en fait, il faut pousser cette anonymisation par-delà juste monsieur ou madame X. Parce qu'en fait, les IA, elles peuvent ici. Ah, on a la localisation de la ville, on peut avoir peut-être même la localisation par l'adresse de la structure, et de fait, le recoupement des données fait que cette personne peut tout à fait être identifiée. Donc, ici, je vous invite à beaucoup de prudence, premièrement. Deuxièmement, à l'échelle de cette question de la protection des données, il y a aussi celle des auteurs. Mais tout à l'heure, je l'ai mentionné à travers les documents que vous mettez. Si vous n'avez pas l'accord de celui qui a fait ce document, vous faites une violation de droit d'auteur, clairement. Et les organisations, pourquoi aujourd'hui elles s'emparent beaucoup de cette question de l'IA générative? Parce qu'en fait, c'est les professionnels en fait qui l'utilisent. Et l'organisation, on voit ici une fuite de ses données internes. Donc elles s'emparent de la question. Et elles cherchent en fait ici à maîtriser, parce que des données sensibles de l'entreprise elle-même peuvent aussi... Parce que vous êtes sur un secteur qui concerne plutôt des personnes, mais il y a d'autres entreprises qui travaillent sur d'autres champs, dans le secteur marchand, etc. Tout ça. Et donc, il y a des données qui sont bonnes. La deuxième question, c'était, s'il vous plaît.
Quel enregistrement des recherches via l'IA?
Alors,
c'est-à-dire que tout ce qu'on recherche, j'imagine que c'est ça, dès qu'on fait un prompt, c'est...
Alors, jusqu'à un certain point. En fait, ça va dépendre si vous êtes abonné ou pas, par exemple. Hein. Et c'est jusqu'à un certain point, puisqu'à un moment donné, certains râlent en disant « Oh là là, je suis obligé de lui redonner le contexte, etc. » parce qu'il a perdu le fil du départ, quoi. Hein. Donc oui, il tient compte de vos prompts. Alors, dans quelle mesure, jusqu'à quand, je ne sais pas. Je n'utilise pas assez. C'est pas une question que j'ai été creusée. Et pour le coup, en fait, j'utilise finalement, moi, assez peu. Alors, mes collègues l'utilisent à fond, hein. Je sais pas, voilà. Mais donc je sais pas. Je pourrais difficilement vous répondre. Je sais qu'il en tient compte un long moment, mais jusqu'où, j'ai pas le seuil. Par contre, en fait, les données que vous lui donnez, si vous n'avez pas à faire un abonnement, je sais plus comment l'option, c'est pas drop out ou je sais plus comment c'est. Il y a un truc out. Comment? Voilà, mais il y a un terme ici anglo-saxon, mais il faut effectivement demander à ce que vous ne partagiez pas ces données et ce qu'elles ne puissent pas être exploitées dans le cadre d'entraînement du système en question. Donc en fait, ça se fait pas. Hein. J'ai envie de vous dire, ça se fait pas naturellement. Enfin, c'est d'abord entraînement, exploitation de ces données, etc. Et puis il faut que vous alliez à rebours de ça et que vous fassiez une démarche pour que on n'utilise pas.
Alors moi, j'aurais une question. Vous expliquiez tout à l'heure qu'on pouvait demander à ChatGPT ou tout autre IA d'ôter les termes émotionnels pour avoir un rapport factuel. Alors effectivement, mais vous avez aussi évoqué notre savoir, j'allais dire, expérientiel ou expérimentatiel, je ne sais pas quoi.
J'entends
ou expérientiel. Bon, de l'expérience, finalement. Donc si on supprime les mots avec une connotation émotionnelle, je me disais, est-ce que nos rapports, à ce moment-là, ne deviennent pas non plus un rapport de police ou notre expérience justement un peu de cette sensibilité, ce qu'on a ressenti, même alors pas forcément avec du jugement, hein, mais on sent bien que ça sent pas bon quand même dans la relation, que c'est pas terrible, qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faudrait avoir un œil. Si on retire tout ça, est-ce qu'on va pas arriver à des choses un petit peu plaquées, enfin voilà, un rapport de police ou dans laquelle, effectivement, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir cette attention, cette espèce de regard supra qui permettrait de se dire, bah, quand même, les faits, ok, mais on sent aussi quelque chose de différent.
Alors, ici, des premiers retours que nous avons, il s'agit plutôt, si je prends un peu de recul, d'adapter son écrit au profil de la personne qui va le recevoir, pour que mon écrit puisse être impactant. De fait, ici, pour les quelques personnes qui nous faisaient mention d'une mise en retrait de cette dimension émotionnelle dans l'écrit, c'était à destination d'un public spécifique, le juge, en l'occurrence. Je parlais de procureur, mais comme je suis ignorante sur ces volets, tendance à penser que c'est la même chose, mais peut-être que je me méprends. Non, c'est pas la même chose. Ah, c'est propre d'abord, et vous voyez, vous m'apprenez des choses, merci. Mais donc, de fait, ici, le but, c'était, pour l'essentiel, que son rapport soit impactant. Et c'est la raison pour laquelle. Et donc, en fait, il ne s'agissait pas tant d'aller vers... pardon, je vous emprunte ici une démarche qui est forte, l'aller vers, mais ce n'est pas dans ce sens-là, mais plutôt d'aller vers quelque chose qui ne soit pas uniformisé. Ce n'est pas ça le but. Hein. Parce qu'effectivement, c'est l'écueil avec lequel on pourrait ici tomber, mais c'est plutôt, j'ai mon rapport d'analyse, alors quand je dois le soumettre à la direction, comment vaut-il mieux qu'il reformule-moi de façon à ce qu'il puisse être impactant par rapport à la... Voilà, il sera reçu ici par une direction, par un procureur, par... Vous voyez. Et donc c'est plutôt ça, l'adaptation de la communication pour que son rapport soit le plus impactant possible.
Eh bien, nous, on vous remercie beaucoup.